Chapitre 2. Un nouveau foyer. Le grand druide Aldero était debout devant le mystérieux palais de Shanka, épuisé, mais heureux d'avoir enfin trouvé ce lieu secret qu'il cherchait depuis bientôt un an. C'était un vieil homme, mais il était aussi déterminé qu'un jeune adolescent. Car enfin, il allait pouvoir accomplir sa mission. Une récompense tant attendue. Peut-être la dernière. Aldero était seul, à bout de force, mais il pouvait presque sentir l'énergie des autres druides qui pensaient sans doute à lui, de l'autre côté du monde. Il en avait besoin. L'édifice d'un vieil ocre pâle, érodé par la force des temps, se détachait de la roche par sa façade, taillée d'un seul bloc, comme né des entrailles de la montagne. C'était un palais sculpté au milieu de la paroi de pierre jaune, un spectacle magnifique et inquiétant. Par quelle magie une telle construction avait-elle pu échapper à la vigilance des hommes? Qui avait bien pu ériger cette œuvre d'art, sinon un peuple ancien, au savoir aujourd'hui disparu? Les lignes de fuite verticales se mariaient aux courbes des voûtes et des fenêtres, avec une élégance immobile. La beauté était gravée dans la pierre, immortelle. Le soleil s'arrêtait à la porte du temple. Tout semblait tranquille et froid, intact, mort presque. Et pourtant, Aldero savait que son ennemi était là, caché au cœur du palais. Il sentait sa présence, la signature de son passage, sur la face des pierres, dans l'immobilité des ombres. Son adversaire était là, qui l'attendait. Mais il n'était plus temps de revenir en arrière. Le combat était inéluctable, comme gravé en lettres majestueuses sur l'arcade brune qui couvrait l'entrée du palais de Shanka. Aldero, son visage ridé caché dans l'ombre de sa capuche marron et derrière les poils gris de sa longue barbe, déposa lentement son épée entaillée à ses pieds. Il savait qu'il n'en aurait plus besoin. On ne se battait pas contre cet ennemi-là avec le métal d'une lame. Il posa son sac et détacha son ceinturon. Il fit quelques pas puis s'arrêta, levant les mains vers le ciel comme pour la dernière fois. Il sentit l'énergie qui entrait en lui, courait le long de ses veines, aiguisait la conscience qu'il avait de chacun de ses muscles pour lui donner le contrôle total de son corps et des éléments. Il se laissa porter par son pouvoir, la force intérieure qu'apprenaient à saisir les gens de sa caste, le Saïman. Puis il se mit en route. Le froid le saisit entièrement dès qu'il franchit le pas de l'immense porte. L'ombre tranchait l'espace, comme une frontière opaque entre le monde du dehors et l'air glacé du palais. L'atmosphère était marquée par le mal. Un mal qui retenait Aldero à chacun de ses pas, comme si un regard l'épiait derrière chaque zone d'ombre et le suivait en silence. Bientôt ses yeux s'habituèrent à l'obscurité et il découvrit la pièce autour de lui. Un large hall où plongeaient deux escaliers parallèles et dont les murs se perdaient en hauteur dans un jeu d'ombre et de lumière. De rares rayons de soleil quadrillaient l'espace. Par endroits, ils faisaient danser des nuages de poussière dans un spectre multicolore. C'était beau et terrifiant à la fois, comme violer un tombeau ancien. Aldero savait qu'il ne devait pas s'attarder sur la beauté des lieux. Il ne devait plus penser qu'à une seule chose, le combat. Vivre ou mourir. Le Saïman réchauffait lentement son corps et embrasait ses sens. Les sons et les lumières s'amplifiaient autour de lui et il projeta son esprit dans chaque coin de la pièce, à la recherche d'une piste, d'un battement de cœur. Il n'y avait rien dans le hall. Que les pierres polies de quatre murs surélevés. Il ferma les yeux et sut aussitôt qu'il devait monter. Aldero, guidé par le Saïman, quitta la grande pièce et emprunta l'escalier de gauche sans faire de bruit. Lorsqu'il arriva en haut des marches, un mur caché tomba lourdement derrière lui dans un vacarme assourdissant, empêchant toute fuite en arrière. Quand il ouvrit de nouveau les yeux, le bruit résonnait encore dans sa tête. C'était comme si son destin s'était refermé sur lui. Il n'avait plus le choix. Il tenta de se ressaisir et découvrit enfin devant lui la pièce qu'il avait vue en songe. Un rectangle large et profond, longé à droite et à gauche par des colonnes ornées de fresques obscènes, et un plafond trop haut pour être visible. Au loin, on entendait par vagues l'écho de cris inhumains. Une intense lumière rouge irradiait le fond de la pièce, projetant depuis le sol un arc flamboyant vers les parois de pierre. Au centre, une passerelle traversait des bassins d'une lave visqueuse, rouge et noire, où des bulles brillantes venaient éclater lourdement. Et tout au bout, un trône. Un trône haut et étroit, sinistre, sculpté semblait-il dans des os humains. Dessus, comme une statue de roc noir, une silhouette se dessinait à contre-jour. Maol Morda, seigneur des Gorgones, maître des Eridim, porteur de la flamme des ténèbres. Celui que les druides appelaient le renégat. Il était là. Il attendait patiemment Aldero, les bras posés sur les appuis du trône. Dans son regard brillait la mort de ses victimes passées et de ses ennemis futurs. Il ne bougeait pas, mais son immobilité évoquait déjà la puissance. Comme une force lente, destructrice, que rien ne pouvait arrêter. Il n'y avait plus rien d'humain dans cette créature silencieuse, ni dans ses yeux, ni dans le sourire menaçant qu'on devinait dans l'ombre de son visage. Aldero avança sur la passerelle étroite, luttant pour ne pas perdre le contact avec son pouvoir, malgré la peur qui l'envahissait chaque seconde davantage. Son adversaire était devant lui. L'affrontement était maintenant l'unique solution. Seule la mort pourrait conclure leur rencontre. Et son ennemi semblait déjà connaître l'issue du combat. « L'un de vous m'a donc enfin trouvé !» De la voix de Maol Morda sourdait sa haine pour les druides. Une haine approfondie par le temps, irréversible, meurtrière. Séquelle d'une blessure qui ne se refermerait jamais et qui avait fait de lui le monstre qu'il était devenu.
« Je suis venu te tuer !»
répondit seulement Aldero, essayant de trouver au fond de lui-même une assurance digne de sa caste. Mais si instruit fut-il dans l'art magique des druides, il ne parvenait pas à contenir la peur qui le rongeait à l'idée d'affronter leur plus terrible ennemi. Maol Morda éclata de rire. Il se leva brusquement du trône en tendant ses bras au-dessus de sa tête. Son corps musclé, mêlé de métal noir et de chair à vif, entra dans la lumière écarlate qui entourait le siège royal. Il pencha la tête vers l'avant, découvrant les veines gonflées qui striaient son crâne rasé. Ses yeux s'enflammèrent d'un seul coup, et sa silhouette sembla s'agrandir à mesure que son rire envahissait l'espace. Puis ce rire devint cri de rage. La température de la pièce augmenta soudainement. Des éruptions de lave jaillirent des bassins. Et le sol se mit à trembler. Aldero, pris de court, concentra son énergie dans l'espace l'environnant pour se protéger de l'attaque imminente. Le feu du Saïman se mit à danser le long de son corps. Soudain, la voix de Maol Morda s'éteignit sans écho. Puis il fondit sur Aldero comme un fauve sur sa proie. Le druide l'évita de justesse, manquant de tomber dans la lave, et se redressa au milieu du pont de pierre, prêt à esquiver un nouvel assaut. Mais il ne pouvait pas se contenter de se défendre. Il fallait qu'il passe à l'offensive. Avant de chercher un moyen de l'attaquer par surprise, il décida de laisser lui aussi son corps se gonfler d'une énergie brûlante. Il hurla à son tour pour concentrer le Saïman dans ses veines. Mais, alors que ses muscles s'embrasaient, Maol Morda lançait déjà une nouvelle attaque. Le corps du renégat sembla fondre en un instant et s'enflammer d'un seul coup. Aldero, surpris, relâcha son attention et Maol Morda en profita pour se jeter sur lui. Devenu boule de feu, il fendit l'air et explosa devant Aldero. Le druide se mit en garde, concentra son énergie devant lui et parvint à se protéger au dernier instant. Le corps de Maol Morda, recroquevillé au pied d'Aldero, reprit forme humaine, et s'étira d'un geste gracieux, alors que des flammes parcouraient encore ses muscles saillants. Aldéro, dans un éclair de rage, tenta de le frapper de ses deux poings en se dressant comme une vrille, mais son adversaire esquiva cette attaque avec une rapidité surhumaine. Le rire de Maol Morda éclata de nouveau, tandis qu'il tournait lentement autour d'Aldéro, posant sur lui un regard rempli de mépris, de haine et de défi. Soudain, le visage de Maol Morda se figea en un rictus inquiétant. L'instant d'après, son corps sembla se démultiplier dans un mouvement rapide et flou, et ce ne fut plus un, mais quatre ennemis qu'Aldéro dut affronter. Les coups jaillirent de tous les côtés à la fois, plus rapides encore que l'attaque précédente. Les bras enflammés de Maol Morda s'enfoncèrent dans le bouclier d'énergie d'Aldéro, qui, cette fois, ne put éviter cette rafale inattendue. Le druide fut saisi par ses assauts de feu au flanc gauche et dans le ventre. Il tomba à genoux en hurlant de douleur et perdit tout d'un coup le contrôle du Saïman. Désarmé et stupéfait, Aldéro n'opposait plus aucune résistance. Recroquevillé sur la douleur aiguë qui lui brûlait le ventre, il était soumis, vulnérable. Maol Morda reprit sa forme humaine et se pencha sur son adversaire. « Donne-moi le nom du Samil Danak !» ordonna-t-il de sa voix sépulcrale. Aldéro ne put résister. L'injonction de son ennemi n'était pas simplement un ordre, c'était un sortilège. Les mots sortirent tout seuls de sa bouche.
« Le Samil Danak s'appelle Ilvin !»
balbutia-t-il alors que du sang coulait le long de ses lèvres.
« Ilvin, Ibouran !» Mais les autres te tueront avant que tu ne puisses le voir, Maol Morda. Tu peux me tuer. Les miens savent où tu es à présent.
Maol Morda éclata de rire de nouveau.
Je suis content que tu sois venu me rejoindre, Aldéro. L'heure de l'Unseen approche.
Le druide leva lentement la tête, adressant à son bourreau un regard étonné.
Te rejoindre ?
Maol Morda ferma les yeux. L'instant d'après, sa main s'effila, devenant une longue lame de métal brillant qu'il abattit d'un seul geste sur Aldéro, tranchant son corps de l'épaule jusqu'au ventre. Quand la fumée se dissipa enfin autour d'eux, Maol Morda se pencha lentement, le sourire aux lèvres, pour saisir la main de son ennemi agonisant, dont la chair et le sang se répandaient sur les dalles de pierre.
« Adieu, pauvre fou !» chuchota-t-il.
Puis il retourna s'asseoir sur le trône, pensant déjà à d'autres morts. À l'autre bout de la salle, le corps d'Aldéro eut un dernier soubresaut. Le village était déjà presque complètement éteint quand Aléa s'écroula au pied de la grande porte. À bout de souffle, elle posa une main sur le sol et l'autre sur son ventre, comme pour calmer la douleur.
Que lui arrivait-il?
Pourquoi son ventre semblait-il se contracter ainsi? La panique la gagna entièrement, jusqu'à ce qu'enfin elle ne puisse plus retenir la nausée qui lui retournait le cœur. Les yeux emplis de larmes, elle se mit à vomir sur le sol, manquant de perdre l'équilibre. Elle cracha plusieurs fois avant de relever la tête pour chercher un peu d'air frais. On entendait au loin les rires des fêtards à l'entrée des auberges, et les grincements des volets qui se fermaient en cascade. Saratea entrait dans la nuit, comme tous les villages de Sar, sous l'œil bienveillant de la Moïra. La petite resta immobile un long moment, cherchant à reprendre son souffle et à retrouver ses esprits. Elle se releva et s'éloigna en soupirant de l'endroit où la nausée l'avait prise. Elle se demanda si elle pourrait encore parler, tant sa gorge la brûlait. Elle enfouit sa main dans sa poche pour s'assurer de nouveau que la bague était toujours là. Elle avait déjà vérifié au moins 10 fois. Elle ne devait pas la perdre. Elle se figurait que cela pourrait lui servir de preuve. Quand elle sentit le baiser froid du vent sur sa nuque, elle se décida enfin à entrer pour trouver le capitaine Fario, le chef de la garde, et lui raconter son histoire. Comme chaque soir au moment où le village commençait à s'enfoncer dans la nuit, Aléa savait qu'elle trouverait Fario sur la place centrale, devant la taverne Loi et le Grill, où s'agitaient déjà les joueurs de Fitchel. Elle courut dans l'allée principale de Saratea, prenant garde à rester sur le bord de la rue incurvée pour éviter les déchets qui coulaient au milieu. Pourtant, il sentait bon son village à 7 heures du soir. On plongeait par moments dans des nappes de parfums, où se mêlaient les fumées des rôtis qu'on préparait dans les cuisines et l'odeur chaude et sèche du bois et de sa sève qui brûlait dans les cheminées. La rue s'illuminait de reflets bleus et rouges à mesure que la lumière de la lune venait remplacer celle du soleil, et on voyait trembler à travers les fenêtres ouvertes les hautes flammes jaunes des feux de cheminée. Aléa aperçut au loin la place centrale du village, et après quelques foulées de plus, distingua nettement le capitaine Fario au milieu d'autres hommes assemblés devant l'auberge. Il portait l'armure de cuir des soldats de Sars, ornée d'une hirondelle, le blason du comté. Il avait coincé son aume sous son bras droit et tenait ses gants de cuir dans la main gauche. Le capitaine avait l'habitude de venir parler aux habitants du village, le soir, à cet endroit. Il venait respirer l'humeur des badauds, chercher dans les ragots toute information utile pour la sécurité de Saratea. On disait d'ailleurs des Sarrois qu'ils étaient les plus volubiles du royaume de Gaelia.
« Il paraît que le haut roi va se marier !»
annonça un marchand sur le ton de la confidence, avec l'accent fort des paysans de Sars.
Il ferait mieux de s'occuper des chrétiens et de l'Harcourt,
intervint un autre.
Ces autres illuminés envoient leurs soldats de la flamme jusque chez nous, qu'on m'a dit, et d'ici à ce qu'ils viennent jusque dans nos villages pour essayer de nous convertir de gré ou de force. Moi je dis qu'on devrait pendre le comte Alrog, lui reprendre l'Harcourt et se débarrasser des chrétiens.
Les autres acquiescèrent, à l'exception de Fario, qui ne quittait jamais la mine grave et sérieuse que lui imposait son rang.
Un cousin m'a rapporté,
reprit un villageois,
que les soldats de la flamme ont rasé un village tout entier sous prétexte que les habitants voulaient pas accueillir leur évêque de malheur.
Thomas Aeditus.
Si cet imbécile de Hogan fait rien, les chrétiens vont tous nous tuer.
Ne parlez pas ainsi du haut roi,
intervint Fario. Les badauds se turent un instant. La présence du capitaine les forçait tout de même à surveiller un peu leur langage.
Est-ce vrai qu'il va se marier ?
Demanda finalement un villageois.
Oui, c'est vrai,
répondit Fario d'un ton posé.
Avec une dame de Galatie ? J'ai entendu dire que c'est une jeune fille de notre comté. Une Sarroise ?
S'étonnèrent les villageois. Au lieu de répondre, le capitaine fronça les sourcils en essayant de voir au bout de la rue.
Qui est cette gamine, là-bas ?
Demanda-t-il à l'assemblée qui suivit alors son regard vers le nord. Aléa arriva enfin, essoufflée, sur la place centrale.
Capitaine ! Capitaine !
Hurla-t-elle avant de s'arrêter devant les villageois, courbés par la fatigue. Le capitaine Fario s'approcha.
Tiens, mais par la Moira, ne serait-ce pas la petite Aléa ? Dis donc, mon enfant, on m'a dit que tu avais fait des tiennes aujourd'hui.
Capitaine, écoutez-moi. J'ai découvert une chose incroyable au sud du village, au milieu de la lande. Il faut que vous alliez voir.
Intrigué, le reste de l'assemblée s'approcha à son tour, formant un arc de cercle autour de la petite. Aléa reconnut le boucher Almar, son ennemi juré, les mains posées sur son ventre rond et taché de sang animal.
« Qu'est-ce que tu racontes ?» demanda le capitaine.
« J'ai trouvé un corps enfoui dans le sable de la lande, capitaine. Un vieil homme. Il était enterré dans le sable et sa main dépassait du sol. »
Almar, le boucher, éclata de rire en se tapant sur le ventre.
« Elle est bien bonne, celle-là. Cette petite voleuse serait prête à raconter n'importe quoi pour se rendre intéressante »
railla-t-il, entraînant le rire des autres villageois.
« Mais non, je vous jure que c'est vrai. Tenez !»
s'écria Aléa en sortant l'anneau de sa poche.
« Il portait même cette bague au doigt !»«
C'est bien ce que je pensais !»
reprit Almar avant même que le capitaine ait pu intervenir.
« T'as encore volé quelqu'un et tu inventes toute une histoire pour t'innocenter, c'est bien cela ? Si ça se trouve, c'est même toi qui l'as tué, ce vieil homme !»«
Tais-toi !»
hurla Aléa en entrant dans une rage folle. Son injonction fendit l'air comme un éclair,
si puissante qu'elle lui fit peur à elle-même. Au même instant, Almar fut projeté au sol, comme s'il avait pris un violent coup de pied. Le boucher tomba sur les fesses et les villageois restèrent bouche bée. Puis ils éclatèrent de rire en voyant la mine déconfite d'Almar. Mais Aléa, elle, ne riait pas du tout. Elle avait senti son corps traversé par un spasme violent, le même choc qu'il avait saisi quand le poing du cadavre s'était refermé sur sa main au milieu de la lande. Que lui arrivait-il ? Complètement désorientée, elle commença à balbutier quelques mots sans aucun sens. Finalement, le capitaine la sortit de sa torpeur. Il avait eu plusieurs fois affaire à la petite et savait qu'elle n'avait pas mauvais fond.
« Bon, écoute, Aléa, j'irai voir tout cela dès demain matin. Mais tu as mauvaise mine. Très mauvaise mine. As-tu de quoi te payer une nuit d'auberge ?»«
Oui, » mentit Aléa.
« Je te promets que j'irai voir à condition que tu ailles te coucher dans une auberge et que tu me jures de te tenir tranquille pour une fois. C'est bien compris ?»
Aléa acquiesça. Mais elle se demandait comment elle allait pouvoir payer l'auberge si le capitaine Fario la suivait pour s'assurer qu'elle dormait bien à l'abri. Elle n'avait plus un sou en poche. Si elle avait eu le moindre argent, elle n'aurait jamais tenté de voler Almar.
« Quant à toi, Almar, » ajouta le capitaine. Tu ferais mieux de boire un peu moins le soir. Tu ne tiens même plus sur tes pattes. »
Les badauds se dispersèrent en riant, et Almar, sidéré, partit sans mot dire, se retournant de temps en temps pour lancer vers Aléa des petits regards pleins d'inquiétude. En un instant, la place fut vide. Aléa tenta de se ressaisir, et voyant que le capitaine la surveillait, se dirigea, docile, vers l'oie et le grill. Pendant 8 longues semaines, Imala resta sur le litto pour allaiter ses louveteaux. Elle dut les abandonner plusieurs fois pour aller chercher elle-même une viande que la meute ne daignait pas partager. La croissance de ses petits s'en ressentit. Alors qu'ils avaient le même âge que les rejetons d'Aéna, ils semblaient plus maigres et plus fragiles. Imala était affamée et épuisée. L'allaitement était devenu douloureux et elle avait perdu beaucoup de poids. Ses os saillaient sous sa peau dégarnie. Le sevrage fut difficile. Les louveteaux étaient décharnés et encore très malhabiles quand Imala les laissa pour la première fois seule plus d'une nuit. Elle revint le lendemain matin avec un chevreuil qu'elle défendit contre le reste de la meute et amena près de son litto. Elle commença à manger sa proie et donna à ses petits la viande qu'elle régurgitait. C'est sans doute ce qui les sauva ce jour-là, alors que la famine les avait affaiblis pendant plus d'une semaine. Un matin, comme il ne restait plus rien à manger sur la carcasse du chevreuil, Imala partit de nouveau chercher de la viande, seule, dans le cœur de la forêt. Les 5 petits louveteaux, qui n'en pouvaient plus de rester sur la couche de leur mère, alors que la nature les appelait partout autour d'eux, en profitèrent pour s'aventurer aux alentours de la tanière. Là, ils rencontrèrent les petits d'Aéna, dissipés et pleins de vie, qui jouaient dans les herbes et se couraient après, s'amusaient à se mordre, à lutter, et sautaient en tous sens, les uns par-dessus les autres. En voyant arriver la portée d'Imala, les petits d'Aéna se réjouirent. Ils espéraient trouver là de nouveaux compagnons de jeu. Ils commencèrent par tourner autour, puis ils les taquinèrent du bout du museau avant de jouer enfin à la lutte avec ses adversaires trop faciles. Les rejetons d'Imala, affaiblis par la malnutrition, parvenaient à peine à se défendre et ils sortirent épuisés de ces jeux trop violents. Quand les petits d'Aéna se lassèrent, ils repartirent vers le litto de leur mère et les 5 louveteaux d'Imala les suivirent en titubant. Les 2 portées se couchèrent ensemble et ne furent réveillées que quelques heures plus tard par les grognements de la louve dominante, visiblement surprise de voir les petits d'Imala mélangés aux siens. Aéna entra aussitôt dans une rage folle et bondit sur les intrus. Le premier louveteau fut mordu à la gorge jusqu'à ce qu'un violent coup de mâchoire lui brise la nuque sous sa chair déchirée. Il mourut sans gémir, n'ayant même plus la force de se plaindre. La vue du sang excita encore davantage la dominante,
qui se jeta alors sur les quatre autres louveteaux en grognant. Un à un, elle les sortit de la tanière à coups de gueule. Mordus à la gorge, secoués et jetés en l'air, les quatre louveteaux chétifs s'effondrèrent les uns après les autres. Quand elle fut sûre qu'aucun ne bougeait plus, elle fit volte-face et retourna dans son liteau où l'attendaient ses propres petits, tremblant de peur. Elle se coucha en poussant un long soupir. À la tombée du soir, quand Imala revint bredouille à la tanière, elle découvrit quatre de ses petits, morts des suites de leurs blessures, et le cinquième, respirant à peine, allongé sur le flanc. Paniquée, elle commença par faire rouler du bout du museau les cadavres de ses louveteaux, comme pour leur redonner de la vie. Elle dut vite se rendre à l'évidence, et en geignant, attrapa délicatement le seul survivant pour le ramener au liteau, où elle le lécha longuement, abandonnant les quatre autres à la lisière de la tanière. Le dernier louveteau poussait des petits cris de douleur, entrecoupés par une respiration irrégulière. Ses poils gris étaient collés par son propre sang sous sa gorge et le long de ses côtes. Quand les autres loups arrivèrent à la tanière et qu'ils commencèrent à sentir les cadavres des quatre louveteaux, Imala se dressa sur ses pattes en grognant, les babines retroussées, l'échine arquée et le poil hérissé. Elle était terrifiante, et les loups s'écartèrent la queue basse sans plus oser toucher les dépouilles ensanglantées qui gisaient à l'entrée de la tanière. Imala se coucha en rond, autour de son dernier petit, et poussa un long soupir en posant délicatement sa tête près du petit corps meurtri. Le lendemain matin, les quatre corps avaient disparu. Imala ne chercha pas à savoir comment et se consacra plutôt au louveteau qui tremblait contre son flanc. Elle n'avait plus de lait pour le nourrir et plus de viande autour d'elle. Il lui fallait partir de nouveau, mais elle ne voulait pas abandonner son petit, craignant de le trouver mort à son retour. Alors elle décida de l'emmener avec elle. Elle prit le louveteau dans sa gueule, aussi délicatement qu'elle put, et s'éloigna lentement de la tanière, laissant la meute derrière elle avec indifférence. Elle passa sans ralentir à côté des petits d'Aéna qui jouaient à se battre à l'entrée de la tanière et s'enfonça dans les bois, la queue basse. L'heure était venue de quitter à jamais cette meute. Elle marcha longuement au milieu de la forêt de hêtres, dans la chaleur de l'été. Les couleurs et les chants joyeux des oiseaux ne changeaient rien à son humeur. Imala était épuisée, inquiète et déchirée. Le louveteau était déjà mort depuis longtemps quand elle sentit qu'il ne bougeait plus dans sa gueule et que son petit corps s'était refroidi. Elle continua pourtant à marcher encore longtemps avec le cadavre chétif coincé entre ses crocs et ne s'arrêta qu'à la nuit tombante pour déposer le corps immobile sous la racine d'un grand chêne. Assise sur son derrière, elle hurla longuement, cherchant en vain les réponses réconfortantes de ceux de son espèce. Puis elle repartit dans la nuit d'un trot rapide et régulier qui allait la porter loin de ses souvenirs déchirants. C'est ainsi, raconte la légende, qu'Imala devint louve solitaire.
Combien me donnez-vous pour cette bague ?
Kerry, le propriétaire ventru de la taverne Loi et le Grill, dévisagea la petite avec un air méfiant, avant de se résoudre à inspecter l'anneau qu'elle lui montrait. Il y avait déjà du monde dans l'auberge, de nombreux villageois épuisés par une journée de travail, mais aussi trois soldats qui avaient gardé leur uniforme sarrois jaune et une troupe d'acteurs cheminants, dont Aléa avait aperçu la roulotte sur la place du village. On entendait à peine les craquements du bois dans la haute cheminée, autour de laquelle se réunissaient chaque soir les joueurs de fitchel du village, quand il n'y avait plus de place sur les tables extérieures. La petite n'était pas très à l'aise parmi tous ces adultes, mais mieux valait éviter le courroux du capitaine Fario. De plus, le décor de l'auberge avait quelque chose de rassurant. Quelques lanternes aux vitres colorées réparties sur les murs de pierre diffusaient dans la pièce une lumière tamisée, tantôt rouge, tantôt verte. Les fauteuils et les bancs rembourrés sous un épais tissu ocre était une invitation à la détente, et il flottait dans l'air un délicieux parfum de viande rôtie qui venait de la cuisine. Aléa n'était jamais entrée dans cette auberge et se dit qu'il devait y faire bon séjourner. Suffisamment sombre pour qu'on s'y sente dans l'intimité, mais suffisamment clair aussi pour donner à l'atmosphère une chaleur agréable.
« À qui l'as-tu volé ?»
demanda l'aubergiste en repoussant la bague que lui tendait Aléa.
« Je ne l'ai pas volé. C'est tout ce qu'il me reste de ma mère et je n'ai pas de quoi me payer une nuit dans votre auberge. »
Aléa mentait si mal, un sourire au coin des lèvres, que l'aubergiste se demanda si elle ne le faisait pas exprès, pour l'attendrir. D'ailleurs, si c'était le cas, cela commençait à fonctionner.
« Je n'en crois pas un mot, et il est hors de question que je te rachète cette bague volée. Mais si tu veux, tu peux rester ici cette nuit, à condition seulement que tu aides ma femme en cuisine. Tu auras aussi droit à un bon repas, et ma femme est la meilleure cuisinière de Saratea, tu peux me croire. »
Il posa sa main sur la lourde porte de chêne et baissa la tête vers la jeune fille.
« Ça te va ? »
demanda-t-il. Aléa fit mine d'hésiter.
« Bon, d'accord, »
avoua-t-elle finalement. L'aubergiste sourit. Il avait toujours été attendri par cette petite fille qui arpentait les rues de la ville. Dès qu'il le pouvait, il l'aidait en lui achetant ce qu'elle avait à vendre, même s'il n'en avait pas vraiment besoin. Plusieurs fois, il lui avait même proposé du travail, mais l'enfant semblait ne pas pouvoir rester en place.
« Très bien. Tu t'appelles Aléa, n'est-ce pas ?»
La petite acquiesça. Il lui sourit gentiment, puis se retourna vers la cuisine pour appeler sa femme.
« Tara ! Viens voir un peu par ici ce que la Moira nous amène. Je voudrais que tu donnes un bain et une chambre à cette petite. Ensuite, elle ira t'aider en cuisine. »
La femme apparut dans l'embrasure de la porte. Elle était petite et replète, et un large sourire fendait le bas de son visage potelé. Aléa trouva qu'elle ressemblait exactement à l'image qu'elle se faisait d'une aubergiste sarroise. Et cela la rendait plutôt sympathique.
« Viens, ma petite, nous avons de la place ce soir, tu as de la chance. »
À peine une heure plus tard, Tara avait donné une chambre à Aléa et lui avait rempli un grand bain d'eau chaude. La petite avait oublié sa nausée et les crampes dans son ventre et s'était allongée dans la grande baignoire en poussant un long soupir de soulagement. Elle ne s'était pas sentie aussi bien depuis fort longtemps. L'eau chaude était comme une caresse qui venait d'étendre sa peau, et Aléa se laissa submerger par un bien-être nouveau. Après quelques instants, elle attrapa près de la baignoire la bague dans sa poche et la regarda longuement. C'était un bijou magnifique, et Aléa n'était finalement pas mécontente de l'avoir gardé. Elle leva la bague pour laisser quelques rayons de lumière passer à travers le rouge de la pierre précieuse et découvrit alors des symboles gravés à l'intérieur de l'anneau. Elle l'approcha et put distinguer ce qui était dessiné. Deux mains couvrant un cœur et une couronne. La gravure était fine et très belle. Aléa sourit. Elle ignorait ce que cela pouvait bien signifier. Mais elle était sûre que cela ajoutait de la valeur à son bijou. Quand elle se sentit enfin prête, elle s'habilla et descendit dans la cuisine où elle retrouva Tara. L'aubergiste était bavarde et elle ne cessa de lui parler tout en préparant les plats qui faisaient la renommée de l'oie et le grill. Du jambon rôti au miel et découpé en petits cubes qu'on servait en amuse-bouche, de la pintade farcie au raisin blanc dans une sauce au vin cuit, du cochon de lait rôti à la broche et servi avec des pommes cuites caramélisées et, la spécialité de Tara, du gigot de sanglier à l'ail flambé à l'eau de vie qu'elle servait avec de gros oignons rôtis. La cuisine était presque aussi grande que la pièce principale. Il y avait là un nombre impressionnant d'ustensiles pendus le long des murs et certains même dont Aléa ne connaissait pas le nom.
« Tu pourrais rester avec nous si tu le voulais, ma petite. D'ailleurs, tu aurais dû venir nous voir depuis bien longtemps plutôt que de rester dans les rues. »
Aléa resta silencieuse. Elle était intriguée par la bonté de ses hôtes, mais ne perdait rien de son naturel méfiant. Même si l'aubergiste lui avait déjà offert de travailler par le passé, c'était la première fois qu'on lui proposait si sérieusement un emploi, et elle trouvait cela aussi inquiétant que gratifiant. Elle ne savait que dire. Elle se sentait si seule, si désarmée dans ce genre de circonstances. On ne lui avait pas appris à parler aux adultes, ni à accepter la générosité gratuite. À cet instant, Aléa se sentit incroyablement pauvre et démunie. Jamais elle n'avait regretté d'être orpheline autant qu'en cette minute-là. Elle eut du mal à retenir les larmes de honte qui lui piquaient le coin des yeux.
« Tu sais faire la cuisine ?»
demanda Tara après quelques minutes de silence, en s'essuyant les mains sur son tablier. Aléa hésita un instant, puis elle comprit qu'elle n'allait pas pouvoir rester muette toute la soirée.
« Pas vraiment, » répondit-elle enfin.
« Qu'est-ce que tu sais faire ?»
demanda sans malice la cuisinière.
« Je peux faire n'importe quoi, du moment que vous m'expliquez !»
se vanta la petite en retrouvant un peu de courage. Tara sourit, prit la main d'Aléa et jeta un peu de sel dans sa paume. La jeune fille en fut étonnée, hésita un instant, puis demanda.
« Pourquoi avez-vous fait ça ?»
L'aubergiste parut surprise qu'Aléa ne connaisse pas la signification de son geste. Mais Aléa avait toujours vécu dans la rue et ne pouvait pas connaître toutes les traditions des Sarrois.
Pour attirer la bienveillance de la Moira sur toi, Aléa. Il ne faut pas trop en demander à la Moira. Elle est capricieuse et irritable. Mais de temps en temps, on peut bien lui demander un petit service, non? Je voudrais qu'elle s'occupe enfin de toi. Je voudrais que tu travailles avec nous.
Ainsi, Aléa se retrouva le soir même à servir les clients de l'auberge, à une heure où toutes les filles de son âge partent sagement se coucher. Elle se trompa une ou deux fois en apportant les plats aux clients, se brûla les doigts sur une assiette chaude et renversa une tasse sur le sol, mais dans l'ensemble, elle fit preuve d'une hardiesse étonnante qui lui valut le sourire des aubergistes comme des clients. Ceux qui la reconnaissaient s'étonnèrent de l'avoir ainsi travaillée. Certains s'en réjouissaient, et d'autres pariaient qu'elle ne tiendrait pas plus de 2 jours. Au milieu de la soirée, alors qu'elle commençait à sentir la fatigue, Aléa aperçut une femme à la beauté saisissante qui entrait dans l'auberge avec une harpe sous le bras. Les clients se turent un instant, et quand ils reprirent leur conversation, ce fut avec un entrain redoublé, comme si l'entrée de cette femme les avait tous enchantés. Elle n'était pas vêtue comme les dames de Sarathea, et marchait avec une assurance et une agilité remarquables. Elle portait un corsage en feutrine à col haut et aux manches bouffantes, d'un bleu élégant, qui ajoutait à la noblesse de son maintien. C'était le bleu des bardes, la couleur qui leur était réservée. Et ainsi, Aléa n'eut aucune peine à deviner le statut de la nouvelle arrivante. Au milieu de son corsage était brodée la silhouette gracieuse d'une licorne, son blason. Au lieu d'une robe, elle portait une culotte longue et légère, noire, qui lui collait à la peau et soulignait le galbe de ses longues jambes. Sa chevelure rousse tombait dans son dos, dans un enchevêtrement de mèches et de boucles gracieuses.
« Bonsoir, Face !»
dit l'aubergiste en posant son torchon sur le comptoir pour l'accueillir à bras ouverts.
« Ça faisait si longtemps! Où étais-tu passé ?»
Aléa fut surprise de voir que la femme connaissait les aubergistes. La barde embrassa Kerry, puis tendit les bras à Tara, qui venait d'apparaître derrière le comptoir.
« Bonsoir, mes amis. J'ai voyagé au royaume d'Harcourt en espérant que mes chansons et mes nouvelles pourraient apaiser ses habitants. Mais il ne fait vraiment pas bon vivre là-bas quand on refuse de prier leur fameux Christ. Alors me revoilà, avec quelques nouvelles chansons pour les auberges de Sar.
Tu restes ici ce soir, n'est-ce pas ? »
demanda Tara tout en préparant une table pour la barde.
« Bien sûr. Si vous m'offrez un peu de votre célèbre pintade. »
Tara lui répondit d'un clin d'œil, puis s'approcha d'Aléa. La petite se rendit alors compte qu'elle était restée immobile et bouche bée depuis l'entrée de la barde, admirant son visage et ses yeux si brillants.
« Je crois que tu as assez travaillé pour ce soir, Aléa. Il est temps que tu te détendes un peu. Là, va t'asseoir à cette table près du comptoir. Je vais t'apporter à manger et tu vas pouvoir écouter Face. C'est la meilleure barde de tout le comté, crois-moi. Nul autre ne connaît des histoires aussi captivantes et des chants aussi beaux. Alors, que veux-tu manger ? » ?»«
C'est la première fois que je vois une barde, » avoua la petite au lieu de répondre.
« Eh bien, je comprends ton excitation. Les bardes sont des gens extraordinaires, tu sais.
Ils suivent les enseignements des druides, puis ils doivent parcourir la terre pour colporter leurs chansons, leurs histoires, mais aussi pour apporter les nouvelles de village en village. Faye s'est souvent venue ici.
Je n'ai jamais vu de druides non plus.
Les druides sont très occupés dans leur grande tour. On les voyait davantage jadis, mais depuis les tensions avec le royaume d'Harcourt, je pense qu'ils ont mieux à faire. Allez, va t'asseoir maintenant et écoute Face.
La petite ne se fit pas prier et partit s'installer à la table sans quitter la femme des yeux. Une barde.
Ça non, elle n'en avait jamais vu.
Comme elle était belle et comme elle était mince. C'était la femme la plus élégante qu'Aléa ait vue de sa vie. L'adolescente se surprit à rêver qu'un jour, elle aurait la même silhouette, la même noblesse, et peut-être le même métier. La barde avait dû voir tant de pays, vivre tant d'aventures. Elle exerça d'emblée sur Aléa une fascination merveilleuse et dut s'en rendre compte en croisant son regard. Faye s'adressa à la petite un tendre sourire. Aléa était tellement envoûtée qu'elle oublia complètement sa mésaventure. La cruauté d'Almar, le boucher, sa course effrénée à travers la lande, ses larmes douloureuses, le cadavre dans le sable, et même la bague magnifique au fond de sa poche. Elle ne pensait plus à tout ça. Elle se laissait bercer par la magie du lieu, les parfums de rôti, la lumière rouge et verte des lanternes vacillantes, la bonté de ses hôtes, et surtout, là, devant elle, cette femme mystérieuse. Aléa s'empressa de manger les délicieux carrés de jambon que Tara lui apportait et applaudit avec enthousiasme quand Face s'assit au bord d'une table, la harpe entre les mains.
Voici une chanson que chantent les sylves dans la forêt de Brocélia. Je l'ai traduite dans notre langue, mais je n'ai pas changé l'air. Et vous verrez ainsi combien les sylves connaissent la musique.
Mais les sylves, ça n'existe pas !
S'exclama Aléa. Quelques tables plus loin, regrettant aussitôt d'avoir parlé, comme tous les regards se tournaient vers elle. Son visage rougit jusqu'à la racine de ses cheveux, et elle esquissa un sourire gêné. Ses yeux bleus étaient brillants de honte. Elle était tellement accaparée par la barde qu'elle en avait presque oublié qu'elle n'était pas seule dans la pièce. Heureusement, la barde lui adressa un sourire. Elle reposa lentement sa harpe sur le bord de la table, et alors qu'un silence attentif avait envahi l'auberge, commença à raconter une histoire sans quitter Aléa des yeux, et sa voix, déjà, était un poème.